Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur Occitanie Première pour la 11e édition d'OxyFoot, votre rendez-vous de football hebdomadaire en Occitanie. Je suis Quentin Marais et c'est encore et toujours un plaisir de vous retrouver pour démarrer la semaine ensemble. Comme d'habitude, ils seront deux à m'accompagner pour cette 11e édition d'OxyFoot. Du côté de Footpi, c'est l'infatigable Xavier Bedos qui est en face de moi. Salut Xavier.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous.
Comment ça va ?
Ça va, il fait froid là.
Il fait froid, il pleut et on n'a pas de neige nous. Il y en a partout sauf ici.
Je sais pas, il va pas tarder à neiger.
Eh ben on l'espère. Et à ma droite, c'est le milieu de terrain de Fonsorbe, passé par Tournefeuille et Lavernoise, entre autres. Il s'agit de Florian Hurtal. Salut Florian.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Comment ça va ?
Impeccable.
On va vous appeler Flo pendant l'émission ?
Pas de problème.
Pas de problème ?
Oui.
Ça va ?
Soucis.
Bon, très bien. Messieurs, juste avant de passer aux résultats que Xavier va nous présenter, laissez-moi vous parler un petit peu du programme de cette 11e édition, justement les résultats d'Occitanie ce week-end de février, avant de passer bien évidemment à l'interview classique de Florian. Une autre interview un petit peu plus légère arrivera avant la musique. Et enfin, le quiz où Xavier reste sur deux défaites. Donc,
de un point.
Alors il y a le célèbre dicton qui dit jamais 203. Est-ce que Flo arrivera à l'honorer? Réponse en fin d'émission, justement. Xavier, qui est le professionnel d'ailleurs du jeu n'est pas révisé, mais qui à la fin sort la copie parfaite. Donc on verra. Les réputations, on les connaît maintenant. Mais bon, voilà, on verra ce qu'il en sera pour cette
qui a gagné le week-end dernier
édition
d'ailleurs, lundi dernier.
Foot, la semaine dernière.
C'est Kevin face à Jules.
Ouais, c'est Kevin qui a gagné face à Jules. C'était très serré, mais c'est Footpi qui a remporté.
On va essayer de changer tout ça.
Qui a remporté la mise. Voilà, Flo, bonne initiative. On verra la réponse en fin d'émission. Messieurs, pour démarrer cette 11e émission d'OxyFoot, je vous propose de passer au résultat. Xavier, qu'est-ce qui s'est passé globalement sur les terrains
d'OxyFoot ? Ce qui s'est passé, alors déjà, il y a eu pas mal de matchs reportés à peu près dans toutes les divisions. Ce qu'on peut noter, c'est la qualification en Gambardella du TFC. Et de Rodez, donc ça c'est bien pour la région, c'est les deux seuls clubs qui restent, hein, TFC et Rodez. Et ensuite, donc, pour continuer avec Rodez, la Nationale 1, même avec leur résultat nul ce week-end, bien ils maintiennent leur première place, hein, juste avec le Restart juste en ligne de mire juste derrière. Donc ça va être serré pour cette équipe de Rodez jusqu'à la fin. Bien sûr, une seule accession. Donc voilà, National 2, ben, l'exploit c'est un peu Colomiers qui perdait à la mi-temps 2-0 et qui a remonté au score et qui l'a emporté sur la fin 3-2. Donc là, Colomiers, bien, toujours pareil, se classe à la première place. Deuxième, Marignane. La mauvaise affaire, c'est Tarbes qui est toujours dernier dans ce groupe de National 2. À noter que je crois qu'il va y avoir dans les matchs retour un Colomiers-Marignane dans pas longtemps. Donc ça va avoir le coup d'aller voir ce match à Capitanie. Donc on vous dira la date de toute manière avec Footpi. En National 3, bien, le TFC récupère sa première place. Donc en étant premier forcément et deuxième Nîmes. Toujours Luzenac. Bon dernier, 14e, et avec le derby Balma-Rodéo plutôt, avec la victoire sans appel de Balma qui a gagné 3-0. Sur le match, il n'y avait rien à dire d'après puisque un journaliste de Footpi y était. Donc Balma qui est sur une bonne série là, en ce moment, puisqu'ils n'ont pas perdu depuis pas mal de temps, et se classent en bonne position en milieu de tableau. Donc ça, c'est le bon point. Pour la division d'honneur, on va aller un peu plus bas et on parlera ensuite du match de Castanet. Pour la division d'honneur, eh bien, ce qu'on peut dire là aussi, c'est la victoire de Muret, qui fait là trois victoires d'affilée, je crois, en gagnant 5-0 face à Aussonne. En milieu de semaine, c'était des matchs en retard. Et donc là, Muret, eh ben, se retrouve second au classement. Ils étaient en mauvaise posture il y a à peu près un mois et demi. Et là, avec les matchs en retard et la bonne série qu'ils viennent de faire, eh bien, ils se retrouvent en première place. À noter que je crois qu'en division d'honneur, les trois premiers, voire le quatrième meilleur, va accéder au National 3 la saison prochaine. Division régionale, alors bon, on ne va pas vous donner tous les résultats parce que forcément les poules sont pas à jour en fonction de fonction des matchs qui ont été reportés, puisque par exemple en poule A, il y a Pamiers qui a été reporté, Saïs a été reporté. On peut dire que surtout en poule B, bien c'est Porté Carrefour et Colomiers qui font la course en tête, et à moins d'un cataclysme, ils retrouveront la division d'honneur pour la saison prochaine. Voilà un peu, Quentin, pour les résultats, y compris pour la PL, la PH, là aussi énormément de matchs reportés, et aussi des réactualisations de journée. Donc voilà, on fera le point normalement là, dans 15 jours pour avoir vraiment les matchs seront remis à jour et on aura vraiment là un classement correct à milieu de saison, quoi.
Pour rester sur la performance de Colomiers ce week-end, c'est quand même assez significatif, réussir à faire cette remontada, on va dire. Surtout après l'élimination en Coupe de France, on aurait pu craindre que ça fasse une rupture. Finalement, pas du tout. Psychologiquement, les Colomériens sont toujours là.
Non, déjà, ils n'ont pas spécialement beaucoup de blessés. Et puis, ça montre qu'ils ont un groupe assez conséquent. Parce que, en fait, souvent, il y a une décompression après la Coupe de France. Ils ont fait un très bon match contre Sochaux. Il y a peut-être la désillusion de l'élimination, puisque ça s'est tenu à peu. Mais ils arrivent à enchaîner, ils sont premiers dans une poule qui est très difficile, avec de grosses écuries. Des clubs comme Marignan, tout ça, c'est très très fort. Et surtout, ils n'ont pas le même budget que Colomiers. Mais ils s'en sortent bien. Et puis, perdre 2-0 à la mi-temps, remonter au score gagné, ça prouve qu'on a un groupe solidaire. Hein, et surtout, c'est qu'on a beaucoup d'ambition, que les joueurs ne lâchent rien, hein, malgré le nombre de matchs incroyables qu'ils font depuis le début de la saison, puisque là, il tournait presque à 2 matchs par semaine, quoi.
Oui.
Entre la Coupe de France et les matchs de championnat, plus les matchs reportés.
Voilà. Avec à chaque fois des matchs où ils sont attendus, puisque le leader, forcément, est toujours un petit peu, un petit peu sillonné, on va dire.
Oui, parce que maintenant, ils font la course en tête presque depuis le début. Et donc, ils sont attendus et ils arrivent à maintenir le rythme. Alors, peut-être qu'ils vont rentrer là maintenant, c'est les matchs décisifs, forcément, c'est les matchs retour. Donc, à noter, je l'ai dit peut-être, Marignan.
Oui, Colomiers-Marignan.
Un Colomiers-Marignan sur les matchs retour. Voilà.
Justement, Flo, on profite de vous avoir avant de passer particulièrement à votre interview. Est-ce que, on vient d'évoquer la remontada de Colomiers, est-ce que vous avez, dans le souvenir, dans votre carrière, d'un match où vous étiez vraiment mal embarqué et où au final vous avez réussi à vous imposer contre toute attente, ou est-ce que, un match où vous vous êtes rendu compte finalement du potentiel de l'effectif, potentiel psychologique notamment ?
Un match qui me vient à l'esprit, non, pas de suite là, non.
Pour vous, comment est-ce que vous expliquez qu'une équipe puisse remonter comme ça? Ce sont d'abord surtout les ressources psychologiques qui font
sûr,
la différence.
Bien sûr, et surtout la solidarité entre. Je pense que c'est une grande bande de copains. Après, c'est dans la tête, c'est surtout ça. Comme je dis aux jeunes qui jouent avec moi dans l'équipe, c'est surtout dans la tête. Après, les gens me suivront.
Alors Flo, on va parler de vous maintenant. Florian Hourtal, vous allez sur vos 31 ans, que vous fêterez dans 23 jours maintenant. On voit votre parcours, vous êtes passé par Tournefeuille, Fontaine, Cugnot, Plaisance, Frouzin, Fonsorbe, Lavernos, Pont-de-Cité que. Vous êtes un Toulousain pur souche. Qu'est-ce que vous retenez de votre carrière ?
De ma carrière, en fait, c'est vrai que j'ai vraiment vagabondé, comme on dit. J'étais à Tournefeuille, Plaisance, comme vous avez pu le citer. Et qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est vrai que dans ma carrière, comment je pourrais dire ça ?
Beaucoup de clubs, mais surtout c'était par rapport à ses débuts, quoi. Ensuite, c'est les aléas qui font.
Oui, bien sûr. Après, j'ai changé le travail, surtout par rapport au travail, par rapport où j'habitais. J'habitais chez mes parents. Après, j'habitais avec ma copine. Et voilà quoi. J'ai été où c'est qu'on m'a appelé, j'y allais. Voilà, tout à fait.
Alors, pour parler un petit peu de vous sur le terrain, vous êtes milieu offensif. Alors, est-ce que c'est le poste que vous avez toujours voulu remplir, le rôle que vous avez toujours voulu remplir, ou est-ce que vous avez navigué dans plusieurs positions avant de vous retrouver à cet endroit ?
J'ai débuté en numéro 6, à l'époque de Tournefeuille, quand j'étais plus jeune. Ensuite, je suis monté d'un cran en numéro 10, et après, on m'a mis sur le côté par rapport à ma vitesse. Voilà. Voilà le milieu que j'ai fait.
Alors, comment est-ce que vous vous définiriez sur un terrain ? Est-ce que vous êtes plutôt calme, posé, ou est-ce qu'au contraire, vous avez un tempérament un peu électrique ?
J'ai un tempérament électrique, ouais.
Ouais.
Voilà,
ouais.
J'aime pas trop prendre de coups. Bon, j'en prends beaucoup, mais j'aime pas en prendre. Alors après, ça pète un peu, quoi.
Est-ce que vous avez d'ailleurs, est-ce que vous aviez, avez toujours un joueur, voilà, professionnel modèle, un exemple qui vous avez toujours voulu vous inspirer sur le terrain?
Oui, Cristiano Ronaldo.
Ouais. Ouais. Et on précise que Flo a le polo du Real, ce qui, ce qui peut s'expliquer.
Ce qui me fait mal aux yeux d'ailleurs. Ce qui me fait mal aux yeux, j'ai des boutons qui poussent sur le front, mais bon, on le laisse faire. Il a 33 ans là, l'âge du Christ.
Aujourd'hui, hein, aujourd'hui, ouais, exactement, Cristiano Ronaldo. Mais ce ne sera pas une question du quiz, dommage. Dommage.
Ah, nice.
Alors, pour revenir sur votre parcours, Flo, vous commencez donc à Tournefeuille avant de partir à Fontaine, Cugnot, Plaisance et Frouzin, et enfin le passage à Fonsorbe avant les 6 mois à La Vernoise et les 18 mois à Tournefeuille, et enfin le comeback, comme on peut dire, à Fonsorbe. Est-ce qu'il y a un club qui vous a plus marqué qu'un autre?
Fonsorbe.
Ouais.
Ouais.
Le retour, notamment, le fait de revenir.
C'est un club famille, c'est surtout ce que je recherche. Très, très famille, avec des ambitions qui sont importantes. Bon, cette année, c'est sûr qu'on n'y est pas trop dedans. Mais voilà, ouais,
c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ne sont pas trop dedans. Ouais.
Oui, après, oui, on en parlait d'ailleurs avec Flo juste avant. Pour la DHR, il y a une avant-dernière position qui peut se remonter avec l'écart au classement, mais pour la APL, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, on rappelle qu'il y a 8 équipes qui descendent à cause de la réforme, donc ça peut être un petit peu plus compliqué, même si encore une fois, l'écart comptable n'est pas conséquent, mais le fait qu'il y ait 8 équipes qui descendent...
Bien sûr. Ouais, avec la nouvelle réforme qu'il y a eu là, c'est un peu la galère.
Alors, Florian, je vais vous demander d'être attentif. Quelqu'un que vous connaissez très bien, nous a accordé quelques minutes et a souhaité parler de vous. Écoutez bien.
Flo, c'est comme mon petit frère, on va dire.
Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que la voix de cette personne...
Oui, bien sûr.
Oui.
Mon cousin Mathieu.
Exactement, exactement. C'est Mathieu, votre cousin. Alors, il est plus âgé que vous, pour la petite présentation. Il a 33 ans et est attaquant. Et une grande partie de votre parcours footballistique est liée avec lui. Pour le coup, vous partez à La Vernoise ensemble, vous rejoignez Tournefeuille ensemble, pour ne citer que ces deux clubs. Alors, c'est un parcours en commun que Mathieu a forcément retracé. On l'écoute.
Toujours se suivre. Donc voilà, oui. On se concertait toujours entre lui, moi et Steve Alves aussi. Parce qu'on était un peu... Comme on nous appelait à Fonsorbe le camp des Siciliens. Donc ça, je pense que ça va le faire bien rire, parce que c'est une anecdote qui nous a suivi pendant un moment.
Alors ça vous rappelle forcément des souvenirs?
Oui, tout à fait. À Fonsorbe, quand on a fait la montée en PLPH, voilà, c'est l'entraîneur qui nous appelait le clan des Siciliens, car on était toujours tout le temps ensemble, tous les trois tout le temps. Et voilà quoi, et c'est vrai que c'est vraiment une bonne amitié qu'on a tous les trois, même si Mathieu c'est mon cousin.
Alors, pour le coup, figurez-vous que Mathieu nous a livré une petite anecdote vous concernant. Alors, avec toutes ces années passées ensemble, le lien familial, ne pouvait pas lui demander. Alors, comment se comporte Flo Hurtal sur le terrain? Mathieu nous a répondu.
Flo, c'est quelqu'un qui a le mental pas au top. S'il rate un truc d'entrée, le match devait compliquer. Par contre, s'il réussit, il fait mal aux adversaires. Après, sur le terrain, moi, qu'est-ce que je pouvais lui dire? À part que quand il recevait le ballon de côté, je lui disais souvent « mets-la en une, j'y serai toujours ». Et quand il a compris ça, il m'a fait marquer pas mal de buts.
C'est vrai?
Oui, bien sûr, c'est vrai. Ouais. On peut jouer les yeux fermés ensemble et on se trouvera toujours.
Ouais. Et pour le coup, c'est vrai, vous êtes d'accord avec lui, c'est le mental, votre point faible?
Ouais, c'est ça,
tout à
fait. Ouais. Ben, c'est ça, des fois, qui m'a fait défaut quand je suis parti dans des clubs. Et c'est vrai que soit je jouais, soit je jouais pas. Et quand je jouais pas, on ne faisait que me dire « le mental, Flo, le mental ». Voilà.
C'est vrai que c'est le cas pour beaucoup de joueurs d'ailleurs, hein, dans beaucoup de carrières, que ce soit à niveau professionnel ou amateur, qu'on entend souvent dire le premier geste d'un match peut conditionner la suite de la rencontre. Si on commence à rater deux contrôles, ça peut être compliqué ensuite.
C'est ça.
Et pour le reste, pour le coup, si on arrive à réussir sa première transversale ou ses premiers gestes, forcément ça amène du plus. J'imagine que les liens forts qui vous unissent en dehors du terrain avec Mathieu, ils ont contribué à ce parcours qui est très étroitement lié pour le coup.
Oui, bien sûr, mais à chaque fois que si lui ou moi, on devait changer de club, on s'appelait, on va là, je te suis, on ne s'est jamais séparés à part cette année-là, c'est tout.
Ouais. Qu'est-ce qui a fait que les chemins se sont séparés?
Lui, il vient d'avoir un petit garçon, ouais. Il voulait jouer à côté de la maison, c'est normal. Ben, moi, c'est pareil, je viens de faire construire, alors je joue à Fonsorbe.
Ça change un petit peu,
voilà.
Le fait de ne pas l'avoir devant, ça
tout
change
à fait.
Un peu.
Bien sûr, ça manque beaucoup.
Ouais.
Oui.
Les repères, les automatismes étaient nombreux, j'imagine.
Ah oui.
Ouais. Alors, pour le coup, on a entendu Mathieu qui a longuement insisté sur la bonne entente et la complicité qui était la vôtre sur le terrain. Alors, vous confirmez que du coup, vous, en tant que passeur, vous arriviez facilement à trouver Mathieu en match, oui ?
Oui, bien sûr, oui.
Parce que pour présenter Mathieu, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus grand, qui est,
Il est grand, bon, il est grand par sa taille, mais il est grand aussi pour autre chose. C'est un grand buteur, voilà quoi. Et à chaque fois que je débordais, que je centrais, je savais qu'il était là. Ses appels, je pouvais le voir les yeux fermés, comme je vous ai dit tout à l'heure.
Bon, et pour le coup, alors Flo, vous êtes tellement lié que vous avez été touché par une grave blessure fin 2016 sur le même terrain, bon, à quelques semaines d'intervalle pour le coup. C'était à Colomiers avec Tournefeuille. C'est le genou qui est touché pour vous, Flo, et qui vous prive des terrains pendant de longs mois. C'est
quelques mois, oui.
La période la plus noire de votre carrière.
Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais.
Ouais. Comment est-ce que vous pouvez raconter ce bon, c'est pas un passage très joyeux, mais comment est-ce que.
Je demande un ballon en profondeur sur Synthetica Capitani. Mmh. C'était un jeudi soir. Oui, c'est ça, un jeudi soir après le boulot. Sûrement la fatigue qui m'a éclaté le genou, quoi, peut-être. Mais je demande le ballon en profondeur et sur un appui, terrain synthétique avec des lamelles, ça a craqué. Voilà, alors j'ai eu ligament croisé plus le ménisque.
Et ça a été.
Pendant 8 mois, ouais, voilà, 8 mois. Et là, j'ai repris là, cette année, au mois de. L'année dernière, pardon, au mois d'octobre, fin octobre. Voilà ça.
Alors, est-ce que, Flo, pour vous, cette blessure, est-ce qu'elle symbolise un tournant dans votre parcours ? Parce que, pour rappel, avec Fonsoble, Avernos, vos 6 premiers mois à Tournefeuille, vous évoluez en PL, PH, soit R4, R3, pour rappel. Mais fin 2016, vous avez l'occasion de goûter au niveau DHR, R2 avec Tournefeuille, avant cette blessure. Donc, est-ce que vous considérez que c'est vraiment, une rupture à proprement parler, cette blessure ?
Oui, bien sûr, ça m'a coupé dans mon élan. Parce que je pense que j'étais bien à ce moment-là. Je faisais quelques matchs avec la DHR de Tournefeuille. Bon, là, j'ai joué avec la 2 ce soir-là pour rendre service en Coupe des réserves. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé.
Alors, on parlait d'une carrière qui était liée à votre cousin, mais il y a une autre personne qui a aussi influé sur vos choix footballistiques. Si je vous dis, Flo, qu'elle a dit de vous, je cite, « Mon grincheux, mon poulain, le seul gars qui peut te dire pour un match de montée, mets-moi sur le banc, Barjo, parfois énervant, mais c'est ce qui fait son charme. » Est-ce que vous savez de qui je parle ?
Oui, bien sûr.
Oui.
Momo,
ouais. Le fameux, ouais, voilà. Qui était notre deuxième invité d'ailleurs de l'émission à l'issue de la saison 2015-2016. Hein, il a tenu ses propos où l'abbé de Tournefeuille avait décroché le doublé. Il est venu vous chercher à la Vernoz, comme il l'a dit à la suite de cette citation. Bon, je ne vous l'ai pas dit, sinon vous allez trouver trop vite, mais vous avez quand même réussi à dénicher. Alors, avec lui aussi, Florian, de grands souvenirs.
Oui, bien sûr. Momo, c'est comme un grand frère pour moi. Je l'ai connu à Frouzens. Il jouait avec moi sur le terrain. On a passé une belle saison ensemble, très très belle. Et après, il a continué, lui, dans le monde entraîneur. Et voilà, quoi, il m'a demandé de le rejoindre parce qu'il avait des difficultés avec la 2, ainsi qu'avec Mathieu. Et on l'a rejoint de suite, quoi. On n'a pas hésité une seule seconde.
Alors, c'est sous ses ordres que vous évoluez en DHR. Du coup, est-ce que vous pensez que la relation que vous aviez a
facilité
la chose ?
J'étais pas trop dans le groupe, quoi. Il me prenait de temps en temps, à l'entraînement, en match, en coupe. Mais il me faisait confiance. Voilà, c'est ça qui m'a plu vers lui. Il me faisait confiance, il avait confiance en moi. Il me faisait jouer. Voilà.
Alors, lorsqu'il dit de vous que vous êtes capable de dire « mets-moi sur le banc », qu'est-ce que ça insinue ? Parce que c'est quand même assez intéressant. Vous préférez, du coup, parfois être joker que titulaire ?
Tout à fait,
parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'avoir, par exemple, Cédric Pinto dernièrement, qui a été le joker de luxe de Tournefeuille à plusieurs reprises cette année en Coupe de France. Pour vous aussi, c'est un petit peu pareil ?
Oui, des fois, ça m'arrive. Quand je ne suis pas bon dans le jeu, je le reconnais. Je peux lui dire, ou quand je ne me suis pas entraîné, « mets-moi sur le banc, je serai mieux sur le banc pour entrer et exploser », quoi.
Et du coup, cette anecdote est vraie avec Tournefeuille,
oui,
c'était pendant
sûr,
le match de la
sûr.
Montée
Ouais, c'est ça, tout à fait. Où c'était, je pense, la finale de Coupe des réserves, peut-être.
Et du coup, vous êtes rentré, vous avez fait un.
Non, mais il m'a mis
bon
titulaire.
Titulaire, tu
vois.
Voilà, coup,
ouais. Du coup, il m'a mis titulaire. Ouais.
Du coup, ça s'était
voilà,
bien passé
ouais. Oui, nickel, impeccable.
Bon, ben, le coach arrive juste alors. Et justement, Flo, niveau palmarès, il y a ce doublé Coupe Championnat en 2016 avec l'AST, montée en péage, victoire en Coupe. La semaine dernière, une pareille performance avait constitué le meilleur souvenir de carrière de Jules Chimbacala, la carrière post-professionnelle. Est-ce que pour vous aussi, ce doublé constitue le meilleur souvenir de votre
carrière ?
Bien
sûr, oui, tout à fait. Mais après, mon plus grand souvenir, c'est avec Fonsorp, c'est avec la Célessao, avec Xavi peut en témoigner. On était vraiment une bande de copains, une grande famille. Soudé sur le terrain, soudé en dehors, et ça restera mémorable.
Oui. Vous approuvez, Xavier ?
Ah ben oui, c'était une saison avec un nouvel entraîneur qui est arrivé au club, qui s'occupait de la réserve, donc l'équipe était très jeune, et avec 2-3 anciens, dont Momo, le coach de Tournefeuille, jouait dans l'équipe à l'époque, entraîné par Christophe Mascara. Et donc, l'amalgame s'est bien fait, en fait, entre quelques anciens, il y avait 2-3, pas plus, et après, 3-4. et puis, beaucoup de jeunes, en fait, qui sont arrivés cette année-là. Et ça tout de suite pris, et l'équipe, après un bon début de championnat, elle a joué la montée, elle a accédé à la division supérieure, et ils ont même fait la finale du challenge des réserves, en éliminant beaucoup d'équipes au-dessus de leur niveau. Donc voilà, une saison pour le coup réussie, quoi. Voilà, cette année-là, et je pense que beaucoup s'en souviennent. D'ailleurs, après, on a eu le contre-coup, puisque beaucoup de joueurs sont partis. Et ça a été un peu le début de la descente du club, notamment avec l'équipe réserve.
Alors globalement, Flo, l'année 2016 dans sa globalité, entre ce doublé, les matchs disputés en DHR, en termes d'année, est-ce que c'est la meilleure aussi à
oui,
titre
oui,
personnel,
bien sûr, oui. Personnel Oui, bien sûr.
Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de ces matchs de DHR? Est-ce que vous avez d'abord d'ailleurs eu du mal à vous acclimater à ce niveau?
Bien sûr, je venais d'arriver au club. Avec Mathieu, on venait d'arriver au club et oui, c'est vrai que bon, après j'arrive facilement à m'intégrer dans un groupe, mais jouer en DHR avec des joueurs comme Fresnel, Leonardi, je ne vais pas tous les citer, c'est vrai que c'est pas impressionnant, mais bon, ils ont déjà eux du niveau, et être à côté d'eux, être pris sous leur aile, ça fait du bien, et c'est là où c'est qu'on arrive un peu à évacuer tout et voilà quoi.
D'autant que l'an dernier et cette année encore, Tournefeuille joue les premiers rôles en DHR, oui, lutte pour monter. Oui. Donc là aussi, il a fallu se racoler aux ambitions du club.
Et avec ma blessure, c'était dur de revenir au plus haut niveau et d'être dans un groupe déjà soudé avec de très bons joueurs.
Alors justement, Flo, c'est ce qui a motivé votre retour à Fonsorbe à l'été 2017, les suites de cette blessure. Vous vous êtes dit que c'était peut-être le moment de partir de Tournefeuille, de vous rapprocher de chez vous.
Oui, bien sûr, oui. Ouais. Parce que je venais de faire construire à Fonsorbe et avec ma blessure, je me suis dit, je vais jouer à côté de la maison pour revenir au plus haut niveau, et voilà.
Alors, on l'a dit au moment d'évoquer les résultats avec Xavier, la saison est un peu compliquée pour le club dans son intégralité. La première est avant-dernière de R2, la B est dernière de R4. Comment est-ce que vous jugez, vous, ce premier semestre dans l'ensemble, et puis après pour la réserve de Fonsorbe?
Dans l'ensemble, c'est une année sans pour moi. Ensuite... Il y a eu des arrivées, il y a eu des départs. Ensuite, que je pourrais dire d'autre après, c'est la loi du football. Hein. C'est sur le carré vert qu'on voit tout ça, c'est les joueurs. Après les résultats, ils sont pas là, quoi.
Cette année, ça ne veut pas le faire, notamment en deux, parce que l'équipe, alors là, pour le coup, elle a 18-20 ans de moyenne d'âge. C'est des U19 qui sont montés, même U19 première année, ils prennent pas de tannée, mais ils perdent 2-1, 1-1, ensuite ils vont perdre 3-1, voilà, ils jouent contre des équipes plus solides, et ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à enchaîner le résultat. Après, une équipe réserve, c'est pas bien grave, parce que ils sont là pour former les joueurs, encadrés par 2-3 anciens, même s'il y a une saison difficile, et même si le club descend de niveau, souvent c'est pas grave. Le plus grave reste l'équipe 1, qui elle est avant-dernière, ce qui n'était pas prévu au départ, et là ça ne veut pas du tout le faire, quoi. Donc c'est vrai que dans le club en ce moment, tout le monde se pose des questions, parce que c'est vraiment, je crois que c'est la pire saison depuis les 10 dernières années. On était un club, c'était un club qui avait l'habitude de jouer les premiers rôles et d'être ambitieux. Et là, pour le coup, le club est, je crois, au plus bas depuis de nombreuses années, quoi. Voilà. Bon, c'est pas fini, il reste encore 11 matchs. Mais c'est vrai que c'est très alarmant. Enfin, à mon goût, en étant un peu de l'extérieur, c'est très alarmant pour le club, quoi. S'il n'y a pas une prise de conscience vraiment des joueurs, du staff et des dirigeants, ça risque de terminer très mal cette histoire.
Alors ce week-end en PL, Flo, la réserve s'est inclinée 3-1 au TAC. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette rencontre? Tu as parlé de la défaite, est-ce qu'elle est logique?
Une défaite, non, pas logique. Pour moi, pas logique, parce que déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans la tête. Ensuite, on a joué sur un terrain synthétique qu'on n'a pas l'habitude de jouer. On a joué contre une belle équipe du TAC, qu'eux, ils ont l'habitude de jouer sur terrain synthétique. Après, on prend 2-3 buts au bout de 20 minutes de jeu, sur coup de pied arrêté. Après, c'est vrai qu'on a mis du temps à rentrer dans le match. Bah, après, on fait une très belle seconde mi-temps. Ils n'ont pas vu le jour. Ils n'ont presque pas dépassé la ligne médiane. On a réussi à mettre un but. Et après, ils ont bloqué derrière. Et voilà, quoi.
Alors, Xavier le rappelait en parlant de l'effectif. Du coup, vous êtes entouré de très, très jeunes joueurs. Du coup, vous devez un petit peu endosser le rôle de l'expérimenté, pour le coup. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Déjà, est-ce qu'au début de la saison, on vous a fait comprendre que bon, vous alliez devoir endosser le rôle de leader? Comment ça s'est passé?
Moi, quand j'ai signé à Fonsorb, je le savais déjà, que c'était une équipe réserve, qu'il y avait beaucoup de jeunes qui montaient de U19, qu'on allait faire dans la formation. Et ça ne me dérange pas du tout. Sincèrement, ça ne me dérange pas du tout. Je peux apporter mon expérience à cette équipe 2, comme je l'ai dit en début d'année aux joueurs. S'ils avaient des questions à me poser, il n'y a pas de problème. J'étais là pour ça. Et voilà.
Alors, sur un plan personnel, est-ce que vous vous êtes fixé un objectif en termes de buts, de passes décisives pour cette année?
Ben, mettre le plus de buts possible, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ensuite, pourquoi pas jouer quelques matchs avec l'équipe 1, si je peux rendre service, ça fait plaisir. Non, après non, que le club peut compter sur moi, que ce soit en 1, en 2, pas de problème.
Vous en êtes à combien de buts là? Vous avez
3 ou 4 buts.
Ouais. Bon. Ça pourrait être pire, c'est ce
qu'il faut se dire. Oui, bien sûr, oui.
C'est toujours ce qu'il faut se dire. Florian, vous allez faire 31 ans le 28 février. Au niveau footballistique, du coup, est-ce que vous aspirez à jouer encore plusieurs années? Comment est-ce que vous avez, on va dire, planifié la suite des événements? Ou est-ce qu'au contraire, vous vivez au jour le jour?
Je vis au jour le jour.
Ouais.
Oui, je vis au jour le jour. Après, on verra l'année prochaine, l'année d'après. Non, là...
Pour l'instant,
ouais, non.
Pour l'instant, c'est focalisé sur le prochain match.
Ça, tout à fait.
Voilà. Et est-ce que l'idée de coacher, est-ce qu'elle a déjà traversé votre esprit?
Tout.
Non, pas encore.
Non.
Est-ce que c'est quelque chose, une chose à laquelle vous pourriez penser peut-être dans les...
Non, pas du tout.
Non.
J'ai eu mon fils là l'année dernière à Tournefeuille. Et les petits, ça me va très bien.
Ouais.
Si j'ai l'occasion de faire les petits, mais les grands, non.
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 Bon, très bien. Bah, écoutez, Flo, merci pour toutes ces réponses. Alors, on va passer maintenant à une interview un petit peu plus décalée, on va dire, un petit peu plus tac au tac. Voilà, deux propositions. Bon, la première, je vais m'en douter si je vous dis Barça ou Real.
Real.
Voilà. OM ou PSG?
OM.
Bayern ou Dortmund?
Dortmund.
Pep Guardiola ou José Mourinho?
Mourinho.
Didier Deschamps ou Zinedine Zidane?
Zidane.
Vicente Del Bosque ou Marcello Lippi?
Lippi.
Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo?
Ronaldo.
Andrea Pirlo ou Xavi Hernandez?
Pirlo.
Andrés Iniesta ou Luka Modric?
Modric.
Lucio González ou Dimitri Payet?
Payet.
Florian Thauvin ou André Ayou?
Thauvin.
Rugby ou basket?
Basket. Petit clin d'œil à ma femme qui a fait du basket.
Le message est passé. Tennis ou hand?
Tennis.
Roger Federer ou Rafael Nadal?
Nadal.
Thé ou café?
Café.
Chocolatine ou pain au chocolat?
Chocolatine.
Pizza ou McDo?
Les deux.
Mer ou montagne?
Mer.
États-Unis ou Australie?
États-Unis.
Italie ou Espagne?
Espagne.
Blonde ou brune?
Blonde.
Si vous deviez coacher une équipe de Ligue 1, pour le coup, à part Marseille?
Toulouse.
Toulouse. Florian Hurtal, coach de Fonsorb un jour, oui ou non?
Non.
La vidéo dans le foot, oui ou non?
Non.
La France, est-ce qu'elle peut gagner cette Coupe du Monde?
Bien sûr.
Oui.
Oui.
Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Flo. Je vous propose maintenant de passer à la pause musicale, choisie par Flo, bien sûr. Jorge Benjor, Más que nada, sur Occitanie Première.
Oh, más que nada, essa dança é gostosa. Essa dança é danada, oh, mais que nada, minha música encantada, minha música adorada. Que nada. nada. Sai da minha frente, eu quero passar. Pois o samba está animado e eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu e universal. Samba de preto velho, salve simpatia, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Tá bonito! De maracatu e universal, samba de preto velho, salve simpatia, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Alô, Xerê! Essa dança é gostosa, essa dança é danada. Oh, mais que nada, minha música encantada, minha música adorada. Jugo de cuba, me digo 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 de cuba. Este samba, mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Quero ver a galera agora.
On est de retour sur Oxyfoot, sur Occitanie. Première, c'était Jorge Benjor, Masquenada. Alors, Flo, pourquoi ce choix musical?
Ben, ça me rappelle la génération Célessao, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà.
Ouais. Alors, une question qu'on vous a pas posée, Flo, s'il y a, voilà, on a parlé de saisons, de clubs qui vous ont marqué. Est-ce qu'il y a un match qui vous revient, peut-être le match d'une montée ou une victoire en coupe, où vous, à titre personnel, vous avez vraiment brillé pour le coup?
Un match, oui, c'était le match de la montée, je sais plus contre qui c'était. On avait gagné 7-0 à la maison contre. On avait gagné 1-0. C'était le match contre Saint-Jean-du-Falga, un but de Mathieu, qu'on avait fait un gros match et on avait tous brillé. Voilà, c'est ce match-là, il me restera gravé.
Ouais. Et forcément, si je vous demande le pire, c'est cette blessure au.
Voilà, le pire, croisé, c'est ouais. le genou.
Ouais. Ouais. On dit souvent qu'il y a un risque de rechute. Comment est-ce que vous avez, est-ce que déjà vous avez senti vraiment qu'il y avait une faiblesse sur le genou? Parce que c'est vrai qu'on entend un peu tout
Mais
sur cette blessure.
C'est vrai que pour ce match-là, je rentrais du travail. C'était un jeudi soir. C'est vrai que dans la journée, je sentais que le genou n'était pas comme, comme avant, quoi. Bon, je me suis dit, bon, mais ça doit être la fatigue. Mais apparemment, on m'avait dit que quand on joue des matchs en étant fatigué, sur des terrains comme ça, synthétiques, il y a plus de risques de se blesser que... Voilà quoi, et je pense, si je reviens bien en arrière, je n'aurais pas joué ce match.
Oui, forcément, avec le recul, ouais, on se dit que si on s'était posé des questions, mais bon, à chaud, forcément, on est, vous êtes compétiteur, j'imagine, voilà, envie de jouer ça. Tous les matchs, donc forcément, forcément, voilà. En plus, bon, en ce moment, c'est vrai qu'il faut faire attention aux genoux, hein, le 15 de France.
C'était un match de coupe où on n'avait plus rien à jouer, alors c'était comme si c'était un match amical, quoi.
Ouais, c'est souvent voilà, là que ça arrive, hein, on ça. Croit que. Mais bon, écoutez, c'est les aléas du football et encore plus du terrain synthétique, hein, finalement, hein, où les appuis sont encore plus mis à contribution.
Chance maintenant de pouvoir se faire opérer. À l'époque, tu avais les croisés, c'était fini pour toi. Hein, parce que là, ils te mettaient des ligaments en titane, hein, tu avais le genou, il était bloqué. Donc, tu ne pouvais plus rejouer au football. Mais maintenant, c'est bon, on dit que c'est 6 à 8 mois pour des croisés. Il faut 7-8 mois après de compétition pour prendre son niveau. Donc voilà, c'est des blessures un peu embêtantes, mais où on peut continuer à rejouer au football après. Quoi. Oui, il n'y a plus de problème maintenant avec ça. Quoi.
C'est pas rédhibitoire, exactement. Messieurs, alors on va passer au quiz un petit peu plus tôt que prévu, tout simplement, parce qu'on va avoir la chance en fin de mission d'avoir Gilles Galinier.
En espérant l'avoir.
En espérant l'avoir, parce qu'il y a un tirage ce soir, Xavier.
Oui. De la coupe Occitanie, donc voilà. Donc on va essayer d'avoir le résultat du tirage en direct
voilà. Avec Gilles Galinier, mais juste avant, messieurs, le quiz, le fameux 10 questions sur l'actualité sportive de la semaine, l'actualité footballistique de la semaine, si vous pensez.
Ah, on repasse à 10 questions parce que la dernière fois,
la toute première de 2018 a été perturbée.
Je me suis fait 20 questions que dans le museau.
La toute première de 2018, c'était 18 ça, questions. Ouais. C'était, voilà, c'était
bien
une petite exclue. Xavier ne s'en est pas remis. Voilà.
Non, mais moi, quand je change les règles, là, ça va pas.
Voilà, mais c'était une exclusivité.
T'as gagné au moins une fois.
Hein j'ai gagné, j'ai fait 4 victoires d'affilée, mais c'est en 2018, je suis au sac.
Ah non, en 2018, c'est un peu compliqué.
C'est pas. C'est les huîtres du jour.
Pour Xavier, voilà. Bon, messieurs, première question de cette 11e édition d'Oxyfoot. Qui a dit.
Même pas regarder la télé ce week-end.
Qui. Voilà. Donc, attention, souvent, c'est mauvais signe. Hein. Qui a dit, messieurs, c'est la dernière fois, c'est zéro.
C'est la dernière fois, c'est zéro.
Exactement. Premier point pour Flo. Luis Gustavo.
Ah ouais, mais c'est une question pour un Marseillais, ça.
Il a poussé une gueulante à peine le match terminé entre l'OM et Metz. Si les Marseillais ont fait le spectacle en battant leur adversaire 6-3, ce n'est pas sans un relâchement qui a coûté 2 buts aux Olympiens dans les dernières minutes. Et quand on sait à quel point la différence de but risque d'être déterminante, on peut comprendre l'ancien Bavarois. Gros relâchement, hein. Cette fin de match pour les Marseillais. 1-0 pour Flo contre Xavier. Deuxième question, messieurs, à peine recruté et voilà le doublé.
À peine recruté et voilà le doublé. Mais c'est, comment il s'appelle, hein? Qui c'est qui a marqué un doublé là, il n'y a pas si longtemps? En français?
Non.
Non, non. C'est en Angleterre.
Michy Batshuayi.
Exactement. Michy Batshuayi.
Encore un Marseillais.
Un ancien Marseillais. Non. Ça fait longtemps.
Il a pas joué à Marseille,
oui. Si, 2016. Si. Ça remonte un petit peu. Temps. Qui a parfaitement démarré avec le Borussia Dortmund sur la pelouse de Cologne. L'ancien Marseillais a honoré sa première titularisation par un doublé et une passe décisive. Autrement dit, il est impliqué sur tous les buts de sa nouvelle formation qu'il a emporté 3-2. On peut dire que c'est un démarrage réussi.
Ouais.
Pour le coup.
Bon, en Allemagne, ouais. Ça termine mais jamais à 0-0.
Oui, ça c'est clair.
C'est le cas pour plusieurs joueurs aussi quand ils signent dans un nouveau club.
Ouais. Alors, ou pour le coup, ça prend tout de suite, ou par contre.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Ouais, sauf pour Mitroglou.
Oui, bah, est-ce qu'il y en a pour qui c'est un petit peu plus compliqué. Heureusement qu'il y a un autre attaquant de poche qui fait le boulot, parce que sinon, c'est un petit peu plus dur, c'est sûr. 2-0 pour Flo qui démarre bien. Troisième question, messieurs, et l'incroyable raté du week-end est attribué à.
Ah oui, il y a un pénalty là. Non, c'est pas un pénalty. Il n'y a pas eu un pénalty.
Il y a eu un pénalty envoyé dans les nuages, mais ce n'est pas ça. C'est pas enfin, même pas dans les nuages, un pénalty complètement raté d'ailleurs, mais ce n'est pas ça.
L'incroyable raté.
C'est en week-end. France ?
Non.
Je sais pas du tout. C'est en Espagne ?
Non, c'est en Angleterre.
C'est en Angleterre ? Un pénalty loupé ?
Non, même un incroyable raté, vraiment.
Et j'ai même pas vu le championnat anglais, je ne vois pas.
Non. C'est une équipe qui a été tenue en échec et qui aurait pu faire le
Liverpool.
Break à ce moment-là. Non. Non, non. c'est un joueur et il a manqué l'immanquable, véritablement.
Bon, ben écoute, moi je donne ma langue au gâteau.
C'est on peut faire durer un petit peu, c'est un joueur de l'équipe qui survole le championnat anglais.
Et Giroud ?
Non.
Ah, mais qui survole,
Le championnat anglais.
City.
Oui, City. Donc c'est un...
Ah, c'est Aguero ?
Non.
Même pas ? C'est De Bruyne ?
Non.
Tu vas pas te citer.
Ah, c'est Guardiola, il a loupé un ballon ou quoi ? Il est rentré en cours de jeu.
C'est un anglais, un attaquant anglais de Manchester City.
Comment il s'appelle le frisé là, le black frisé.
Oui.
Comment il s'appelle lui ?
Ah, ce n'est pas le roi Sané, non.
C'est pas le roi Sané, non. Il y a
des internationaux. L'avant-centre là.
Il y a un international anglais.
Si je vous dis son prénom, vous allez trouver tout de suite.
Il y a un international anglais titulaire à Manchester City. Ah ouais.
Si je vous dis Raheem.
Raheem
Sterling, messieurs.
Ah oui.
Raheem Sterling, qui est l'attaquant Citizen, qui a manqué l'immanquable. Samedi à Burnley, à quelques mètres des buts, il s'est complètement loupé, il n'est pas parvenu à briquer. Et il a coûté, bon, entre guillemets, cher, parce qu'il y a quand même une avance colossale encore. Les hommes de Pep Guardiola ont finalement dû partager les points. Toujours 2-0, pour le coup. Voilà. Messieurs, quatrième question. On n'insulte pas Donald Trump.
On n'insulte pas Donald Trump. Où t'as été chercher ça ? On n'insulte pas Donald Trump. Et en plus, je pense
là, j'imagine que Romain est en train de nous écouter, qu'il a déjà trouvé. Tellement, voilà, je l'imagine bien. C'est un joueur, c'est une légende qui ne joue plus.
Et Ronaldo ?
Non.
Pelé ?
Non.
Maradona ?
Oui, c'est Maradona. La légende argentine Ronaldo, s'est vue refuser un visa pour aller aux États-Unis. Pour cause, tout simplement, messieurs, il aurait déclaré sur un réseau vénézuélien que le président américain était une chirolita, une marionnette. Et l'info n'a pas tardé avant d'atterrir aux États-Unis. Voilà.
Donc,
visa refusé
pour Diego.
Pour, exactement. 3-0 pour Flo.
Et 2.
Et 3-0, oui, on y est. Alors, messieurs, on peut se proposer une jupilère accompagnée de quelques frites, mais avant ça, dites-moi qui est en tête du championnat belge.
Moukron ? Zultvargem ?
Non.
C'est pas Anderlecht ? Si ?
Non.
C'est pas...
Plus, messieurs, il y a eu le sommet du championnat belge ce week-end. Ouais, la jupilère Pro League, quand
c'est
même.
Pas, hein,
ah,
ce
oui,
championnat.
Jupilère Pro League.
Moi aussi, c'est pas Anderlecht.
C'est, comment ça s'appelle, Anderlecht ? Bruges.
Eh oui, c'est Bruges. Avec 11 points d'avance sur Charleroi. Voilà, il y a eu 3 partout ce week-end. Mais voilà, on parle de l'Allemagne, mais en Belgique aussi, il y a des buts. Hein. Ouais. En Belgique aussi, il y a des buts 3 partout. Et c'est Charleroi qui est second. Et Bruges qui est premier. Messieurs, 3-1 pour Flo. Et du coup, 6e question.
J'ai sauvé l'honneur.
Une égalité, exactement. 80 millions, c'est non.
80 millions, c'est non.
Je l'ai entendu, c'est non.
Ouais, c'est en Espagne ?
Non.
80 millions, c'est pour... c'est un joueur français ?
Oui.
C'est pour Mbappé, je crois, non ?
Non.
80 millions, c'est non. Je ne vois pas, même mon petit loup.
Ah, c'est pour Thauvin.
80 millions.
Oui, exactement. Jacques-Henri Hérault l'a clairement fait comprendre, il n'est pas disposé à vendre Florian Thauvin. L'Inter et la Roma font notamment le forcing.
Il t'a passé un mot pour faire des questions que sur les Marseillais.
Ah non, là c'est au-delà. C'est
il est abonné à Bengouz, au PCN et à l'OM TV.
C'est pas Bengouz pourtant, pour une hein fois. C'est pas,
non, il dit,
c'est
il pas dit Bengouz. Que des saucisses.
80 millions et pas de quoi emballer le président marseillais décidé à garder sa pépite.
Qui c'est qui le voulait ?
Vélodrome. Alors, au moment, il y avait le Bayern, Arsenal qui était dessus. Il fut un temps, là, l'Inter et la Roma.
Bah, non plus, il faut redescendre un peu. Hein.
Oui.
Au Bayern, il y a Rodriguez.
Il y a Ribéry qui est en fin de carrière. En fin de carrière,
ouais,
même s'il continue d'accélérer.
Marqué, contre Borum, il marque.
Oui, mais il marque. Messieurs, une équipe a affiché 87% de possession de balles durant la première demi-heure de son match avant de le perdre. Laquelle ?
Il dit un championnat quand même.
Lyon.
87.
En Ligue 1.
Lyon.
En Ligue 1.
Non.
En Ligue 1, c'est 85%. C'est
87% de possession de balle durant la première demi-heure de son match. Et elle l'a perdu 1-0.
c'est. Elle a perdu 1-0. Ah, mais c'est Toulouse. Oui. Toulouse contre le truc là. Allez, Nice.
Et voilà. Et oui, c'est Nice qui a encore une fois prouvé que dominer n'est pas gagné pour le coup. Face à Toulouse, les Aiglons ont été maîtres du ballon, mais Gradel les a punis. A permis au TFC de prendre d'ailleurs 3
Balotelli
points capitaux.
Balotelli n'a pas joué. Ou
suspendu. Voilà. Ouais, 3 cartons jaunes en 10 matchs, il les a pris lors des 3 derniers matchs pour le coup. Donc il s'est grillé sur les 3 derniers. 4-2 et il reste 3 questions. Donc autant dire que si Flo marque un point, c'est gagné. Chute. De quoi s'agit-il? Chute.
Chute, tais-toi.
Ouais. Chute, ouais. Chute.
Ah, pas une chute.
Chute, c'est à chuter,
ouais. Ouais. Chute, oui.
Ça s'est passé hier, en Espagne.
Ah, c'est Raggi? Non, c'est pas.
En Espagne.
Ah, en Espagne, pardon. Ah, mais c'est. Oui, c'est Piqué
voilà.
Avec le Barça contre.
Voilà, c'est la célébration de Gérard Piqué, buteur contre le Barça, contre l'Espagnol Barcelone. Très souvent en terrain hostile, c'est le moins que l'on puisse dire hein, pour le défenseur catalan. Il a particulièrement été hier. Sifflé et insulté sur chacune de ses touches de balle, le numéro 3, Blaugrana, a égalisé de la tête et célébré, comme il se doit, son but qui a évité au Barça une première défaite de la saison en championnat. Je ne sais pas si vous avez vu le match d'ailleurs, mais on était à la limite de
la pratique. D'ailleurs, Piqué a fait un très grand match avec Umtiti,
ouais.
Dans des conditions trop difficiles. Il a marqué de la tête.
Sur les questions sur l'OM,
il y en avait qu'une. Non, mais il y en avait qu'une sur le Barça. Et attendez. Celle-là, par contre, fallait aller la chercher. Chute.
4-3 pour.
Ou 4-3.
4-3. Mais il y avait 4-2. Mmh. Vous avez marqué, vous aviez 4-3. Eh oui. Attention,
c'est sûr.
Ça suit, ça suit. 9e question. À ce rythme, il va finir par avoir sa statue.
C'est pas Thauvin encore.
Non.
Ah bon.
Non, Ronaldo. C'est pas en France.
C'est pas, non. Hein c'est pas. C'est pas en France. Umtiti.
Non. Messi. Non. Toujours pas.
Non, Messi, il en a déjà 3 statues au Nou Camp. Ils sont derrière.
Au Nou Camp, oui, parce qu'en Argentine, elle se fait vandaliser. Elle tient pas longtemps
debout.
Vrai,
c'est vrai.
C'est en Angleterre.
C'est en Angleterre. Ah, mais c'est à Harry Kane, non?
Non. Ah, ça aurait pu. Mais c'était dans ce match, mais non.
C'était dans ce match. C'est l'Égyptien.
Salah.
Voilà.
Non, mais attends.
C'est ce qui s'appelle donner un
cachet. Passe décisive.
Nice-Toulouse. Et non, vous aviez dit Toulouse, il aurait pu dire Nice, il aurait été à lui le point.
Mais non, mais j'ai dit Nice-Toulouse, oui. Bon, mais.
Passe décisive,
là,
le but.
Quand même. Salah, l'Égyptien. Non, j'ai dit l'Égyptien.
Qu'est-ce qu'on fait, un point et demi chacun?
Allez,
pour garder du suspense sur la dernière question.
0-5.
Allez. 4,5 à 3,5 pour le coup. J'avais su que j'allais dire
voilà.
Partager
les. Tu devrais les mettre parce que tu vois, je donne une. Je oui, finis pas, ça c'est coup, mon côté juste, altruiste juste, tout le
oui,
temps,
voilà,
systématique.
Voilà, voilà.
On me l'a reproché.
Dernière question, messieurs, et on dit merci Wikipédia.
On dit merci Wikipédia. Ah oui, ça je le sais. C'est un joueur qui a été recruté par une fausse page de Wikipédia.
Exactement.
Je ne sais pas où, là.
Exactement.
À l'étranger. Là.
Exactement. Eh bien, il s'agit de Barclay Miguel Panzo, qui vient d'être recruté par le club lituanien Accrochou.
Ça, je l'ai vu, ça.
Du FK Panezeveis, qui. Ouais. Il s'est peut-être un petit peu emballé derrière le club, et le joueur aussi, sur sa fiche Wikipédia.
Excuse-moi, je
ne
peux pas
exact.
Te dire le nom du club.
Parce non, que, c'est pas grave, ça, on en tiendra par rigueur. L'attaquant, donc, qui a priori. Est angolais, si l'on se réfère à cette fameuse page, a inventé les passages à QPR notamment, et ça a fonctionné. Combien de temps, ça par contre, c'est une autre question, c'est quand même absolument fabuleux ça. Il est connu ni d'Adam ni d'Ève, mais il arrive à décrocher un contrat pro. Messieurs, il y a 4,5 de part et d'autre. Alors, il y a une question qui me vient en tête pour vous départager. Il y avait le championnat d'Afrique des Nations hier, qui c'est qui l'a gagné?
C'est le Maroc.
Bon,
voilà. Ma première victoire de l'année 2018.
Voilà, bon, obligé d'un petit peu d'improviser, de partager les points, mais bon.
Bon, c'est logique.
c'est joué.
Je me suis rattrapé à la fin. Voilà, l'accès. Et j'ai fait une petite remontada.
Belle victoire. Belle victoire. Et oui, voilà. 5,5 à 4,5 pour le coup, pour Xavier qui revient bien, mon flow. Bon perdant.
Non, c'était
oui,
des questions très difficiles.
Voilà, c'est questions difficiles.
Sauf pour Marseille, bien sûr.
Voilà, exactement. Mais il y en a eu pour le Barça aussi, il l'a trouvé. Messieurs, c'est pas encore l'heure de se quitter pour le coup, parce que nous sommes en communication avec monsieur Gilles Galinier qui a assisté au tirage au sort pour la Coupe d'Occitanie. Gilles, est-ce que vous êtes avec nous?
Je suis avec vous, même si je t'entends loin, Xavier.
C'était pas Xavier pour le coup.
C'est Quentin, il y a Quentin. Là, c'est Quentin qui te pose les questions, mais est-ce que tu nous entends?
On va
toucher
du micro là, hein.
Oui. Vas-y, nous on t'entend bien.
Alors Gilles, est-ce que pour le coup, vous pouvez nous faire un petit tour sur, sur le compte-rendu de ce tirage au sort?
Alors je vous fais un topo, je peux vous dire qu'on se l'est gagné déjà, parce que ça n'a pas été facile d'arriver à Castelmoro à la Ligue 1 pour le tirage.
Oui, il y avait des bouchons sur la rocade.
Avec les agriculteurs.
Alors Gilles, qu'est-ce qu'il y a comme grosse affiche à retenir pour le coup, qui seront vraiment à suivre?
Alors on a des belles rencontres pour les clubs de la banlieue toulousaine, puisque la réserve de Balma ira à Saint-Afrique. Pas forcément un match très évident. Le Giroux, le club du nord-ouest toulousain, du nord toulousain, à Castres, là aussi pour un gros déplacement. On aura un match sympathique si Colomiers gagne son match en retard des 16e de finale, puisqu'à ce moment-là, Colomiers recevra Pibrac, un joli match. Et Porté ira à Golfech, là aussi, un match pas évident pour les clubs de la banlieue toulousaine.
Pour vous, Gilles, du coup, s'il y a un match véritablement à ne pas louper, quel est-il?
Je vous entends mal, là.
S'il y a un match à ne pas louper, pour le coup, pour vous, Gilles, quel est-il?
Il y a quand même un gros match puisque Auch recevra Luc Primob. C'est quand même le gros match de ce huitième de finale. Donc il faudra, pour nos amis gersois, aller regarder la rencontre.
Xavier, je vous ai vu hocher la tête pour Colomiers et Pibrac, là aussi, grosse affiche.
Ça va être un gros derby avec comment il s'appelle, hein, le gardien de Pibrac qui est le fils au président de Colomiers. Donc, forcément, ça va être une histoire de famille.
Colomiers doit encore passer, hein, puisque ils ont le match en retard, hein, avec les problèmes de terrain. Ils doivent encore passer, je crois, à Rignac.
D'accord. Bon, apparemment, normalement, enfin, on ne sait jamais en coupe, mais oui, Colomiers, quand même, a les cartes en main, vu qu'ils sont leaders du championnat de DHR cette saison, en plus. Donc voilà, il devrait passer sur ce tour-là et jouer le derby face à Pibrac. C'est à Colomiers, Gilles?
Alors, le match à retard ou...
Non, c'est Pibrac-Colomiers ou Colomiers-Pibrac?
Je pense que ça sera Colomiers-Pibrac.
D'accord, ok. Bon, mais très bien.
Une rencontre qui sera
qui ne sera pas télévisée, mais qu'on pourra avoir, on aura le compte rendu dans Footpi, bien sûr.
Très bien. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir suivi ce tirage au sort pour nous, encore une fois, des affiches.
Avec plaisir. Souhaitez-moi bonne chance pour rentrer maintenant sur Toulouse.
Oui, mais t'inquiète, Gilles. Ils sont partis. Il n'y a plus de grillade, là. C'est bon, c'est fini.
Merci.
Bon, parfait.
Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec nous. À très bientôt sur OxyFoot. Flo, justement, coupe oblige pour le coup. J'imagine que encore une fois, votre meilleur souvenir, c'est 2016, la coupe remportée avec Tournefeuille.
Oui. Bon, après, elle n'est pas encore finie avec l'équipe réserve de Fossor, puisqu'on est toujours en coupe des réserves. On attend le tirage, là, qui va pas tarder à arriver, je pense. Mais oui, mon meilleur souvenir, c'est avec... Tournefeuille, le doublé qu'on a fait.
En 2016, ouais, oui. En 2016, avec Momo Boamama, bien sûr, pour le fait, coup, ouais. toujours présent, Momo. Ouais. Justement, on a parlé souvent quand on avait des coachs en face de nous. Pour vous, Flo, est-ce que vous abordiez différemment les matchs, qu'il s'agisse des matchs de coupe ou des matchs de championnat? On sait que pour certains coachs, bon, il y a parfois un besoin de faire une priorité, surtout, ben, ça dépend aussi de la position dans laquelle on se trouve en championnat. Est-ce que vous les abordiez différemment, étant donné que, bon, quand... prend un match de coupe, on se dit que bah, dans 90 minutes, ça peut être terminé, comme ça peut se continuer. Comment est-ce que vous abordiez ces matchs-là?
Non, mais moi, je les aborde toujours pareil. Bon, c'est sûr, avec un petit mal au ventre, comme tout compétiteur. Et voilà, sinon, toujours ma petite canette de Red Bull qui va bien. Et voilà, la sieste de l'après-midi, voilà.
Ouais, c'est comme ça que vous vous préparez
voilà,
tout le temps,
oui,
du coup.
Oui, oui,
oui. Oui, oui. Bon, et juste avant de se quitter, bon, l'année 2018 a commencé depuis un mois, mais on peut quand même parler de ce que vous projetez pour cette année, tant sur le plan personnel que sportif. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, vous, pour cette année 2018?
Déjà la santé.
Oui.
La santé, ensuite beaucoup de buts. Pourquoi pas faire une remontada avec la PL et se maintenir en PL. Voilà.
Bon. Bon, eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite à Fonsoir, mais bien évidemment à l'équipe première de se maintenir. Si on peut faire d'une pierre deux coups, forcément on signe. Ça va être compliqué, mais...
Une pierre deux coups, ça serait bien, mais qu'une seule pierre, ça serait bien aussi. Hein, parce que là, pour l'instant, on est au sac.
C'est compliqué, mais ça peut le faire. Tant que comptablement, c'est encore possible. Il y a une équipe qui s'appelle le TFC qui, il y a quelques années, nous a montré que l'espoir était de mise.
Oui,
on va
espérer
le même dénouement pour Fonsoir. Merci beaucoup, Flo, d'avoir été avec nous ce soir.
Merci pour l'invitation.
Merci, Xavier, de nous avoir accompagnés. Merci à Jean-Louis Arzac pour la réalisation.
Voilà, avec toi, je vais l'entendre parler.
Voilà,
je caca.
Ah oui, c'est à vos risques et périls, forcément. Merci beaucoup.
Une Barça, sur le
coup. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné.
Merci à vous.
Et je vous souhaite, quant à moi, une très bonne soirée, une très bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la 12e émission d'OxyFoot. Bonsoir.